Il y a quelques semaines maintenant, à la suite dans les idées, je recevais Paul Pasquali pour son enquête sur ces transfuges de classe dans une ville non nommée de France. Ces élèves de classe préparatoire issus d'une ZEP et qui travaillaient à entrer dans des instituts d'études politiques. C'est à nouveau en écho à cette enquête que nous allons parler aujourd'hui du passage de classe, du voyage de classe. C'est le titre du livre dont nous parlons aujourd'hui, celui de Nicolas Jounin. Nicolas Jounin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous publiez donc aux éditions La Découverte Voyage de classe. Et c'est en quelque sorte le retour de ce voyage aller que nous avions fait avec Paul Pasquali voici quelques semaines, puisqu'avec lui, nous avions accompagné des jeunes issus de quartiers classés ZEP par l'éducation nationale et qui avaient une filière spécialisée dans des classes préparatoires pour accéder à certaines écoles de l'enseignement supérieur. Et donc, voyage aller, voyage retour aujourd'hui avec vous, puisque vous, enseignant en sociologie à l'université Paris 8, qui est installée à Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis, vous avez accompagné pendant 3 années vos étudiants de première année de sociologie à venir à Paris, au cœur de Paris, dans le 8e arrondissement de Paris, pour y mener des enquêtes sociologiques. Et ce travail vous a servi de support pédagogique à une initiation, j'imagine, pour la plupart de ces étudiants, à cette discipline. Alors ça donne un livre extraordinairement singulier. Ce livre n'est pas la publication des résultats des multiples enquêtes menées par les étudiants, mais plutôt le récit de cette expérience rare d'enseignement. Et je voudrais le dire d'emblée, je trouve que ce livre, Voyage de classe, devrait être lu par tous les enseignants de sciences économiques et sociales, pas seulement par les enseignants du supérieur, mais aussi par les enseignants du secondaire en lycée, pour voir comment on peut faire découvrir, comment on peut rencontrer une discipline comme la sociologie à travers des enquêtes, à travers des démarches concrètes sur le terrain. Je trouve que c'est un livre qui, par ailleurs, évidemment, par la bande, en dit beaucoup. Beaucoup de petits résultats sociologiques se trouvent disséminés dans le grand récit que vous faites. Comment est née cette idée? D'abord, pas seulement l'idée du livre, mais l'idée d'enseigner de cette manière-là, Nicolas Jounin.
Alors, l'idée d'enseigner de cette manière-là, elle existe à l'Université Paris 8 Saint-Denis depuis un bon moment. Moi, j'ai été initié par des collègues en y arrivant à ce qu'on appelait des stages de terrain, où on part en troisième année de licence. On partait avec des étudiants dans des zones rurales. Ça existe depuis la fin des années 80. C'était mis en place par un collègue qui s'appelle Michel Samuel. Et voilà, les étudiants, après, une fois qu'ils sont en Normandie, en Auvergne ou partout ailleurs, mènent des sujets sur la manière dont on produit et commercialise des produits agricoles, sur la manière dont s'organise l'intercommunalité, quel que soit le sujet. Là, l'idée, c'est qu'on fait du terrain dès la première année, mais on a moins d'argent pour le faire. Le stage de terrain, c'est un peu la consécration pour ceux qui arrivent en troisième année et qui ont droit à 3000 euros pour une quinzaine d'étudiants pour partir en stage de terrain.
Donc là, on ne se paye pas les billets de train, mais on se paye les tickets de métro.
Voilà, là, c'est un peu moins cher. Mais l'idée, c'était quand même d'avoir, dès le début, dès la première année, de se dire, bon, comment on initie des étudiants à la deuxième jambe de la sociologie qu'on oublie souvent, la jambe empirique. Enfin, moi, je considère que la sociologie, ça marche sur deux jambes, une jambe théorique, une jambe empirique, et qu'on avance mieux comme ça qu'en étant unijambiste. Et comment leur faire bien comprendre en quoi ça consiste le travail de terrain, et puis comment fabriquer une expérience qui soit pas traumatisante, mais un petit peu remuante, pour aussi fabriquer une communauté d'expérience pour des étudiants qui, par ailleurs, arrivent à la fac, qui n'est pas le milieu le plus socialisateur qu'on puisse trouver. Donc c'était cette idée de fabriquer ça. Et puis une idée aussi à la fois épistémologique et politique, on va dire, qui est de se dire, bon, les sciences sociales se sont constituées historiquement au 19e siècle avec des bourgeois qui étudient des prolétaires, avec des colonisateurs qui étudient des colonisés, avec des hommes qui étudient des femmes. Bon, les choses ont fait du chemin quand même, mais pas tant que ça. Quand on regarde que des institutions comme celle qu'a étudiée Paul Pasquali, justement, continuent d'être des institutions surdotées, qui bénéficient d'une discrimination donc qui leur est favorable, évidemment, donc du coup des institutions comme Paris 8, en regard, en termes de dotation budgétaire notamment, subissent des discriminations négatives. Donc elles sont surdotées, en même temps elles sursélectionnent leur public. Les enfants d'ouvriers sont beaucoup moins nombreux, par exemple, qu'à Paris 8. Et puis elles produisent ceux qui auront droit à une position d'autorité pour parler sur le monde social, pour enquêter, quelles que soient d'ailleurs les institutions au sein desquelles ils le font. Je prends la notion d'enquête au sens vraiment large. Donc là, l'idée, c'était de dire, on est à Paris 8, mais il n'y a pas de raison qu'on se refuse d'enquêter sur n'importe quel monde. En l'occurrence, à une demi-heure de là, on a le 8e arrondissement, des quartiers très bourgeois, donc on va chercher en même temps un petit peu d'exotisme.
Alors, c'est des partis pris pédagogiques aussi. Vous citez cette phrase forte que je ne connaissais pas d'Hélène Cixous qui dit « il n'y a pas de savoir, il n'y a que de la recherche ».
Oui, alors c'est une phrase que moi j'ai découverte en 2008 ou en 2009. Donc Hélène Cixous, l'une des fondatrices de l'Université Paris 8, qu'on voit dans un film retraçant l'histoire de cette université, et qui dit ça. Bon, qui dit ça en plus de manière orale dans un film, donc c'est pas, tout n'est pas forcément explicité. Et puis moi, ça m'a beaucoup trotté dans la tête. L'explication que je m'en fais, j'avoue que la première fois que je l'ai entendue, donc elle dit « il n'y a pas de savoir, il n'y a que de la recherche ». D'un côté, ça m'a léché un peu, puis en même temps, je me suis dit, quand même, il doit y avoir un petit peu de savoir quelque part.
À force de recherches accumulées.
Voilà. Et puis, ça a fini par me parler au fur et à mesure, et je ne sais pas si c'est vraiment le sens qu'elle y mettait, mais moi, ce que je comprends, c'est que, y compris pour se faufiler, trier dans les connaissances accumulées par nos vénérables prédécesseurs, ça aussi, c'est un processus de recherche, parce que de toute façon, on ne peut pas tout ingurgiter. Donc, il y a bien un parcours quelque part, de la même manière que quand on va sur le terrain, on va enquêter, le réel est foisonnant, on est obligé de trier à l'intérieur. Et donc là aussi, il y a un parcours de recherche à travers les questions qu'on se pose, c'est la même dynamique dans les deux. Donc c'est vrai que d'un point de vue pédagogique, la leçon que j'en tirais et qui m'a amené de plus en plus vers des cours de terrain, davantage que des cours où on assène un peu du Weber, du Marx et du Durkheim, c'est ces cours où on va chercher ensemble avec les étudiants, où on ne sait pas beaucoup plus que les étudiants ce qu'on va trouver.
Alors, on reviendra sur les implications pédagogiques de cette expérience et sur les échos qu'elle fait aussi, peut-être, à la sociologie, à une certaine tradition sociologique naissante aux États-Unis, je pense à Chicago, tout à l'heure. Mais venons-en à cette expérience d'enquête, à ces 3 années successives durant lesquelles vous avez proposé à ces étudiants de première année de prendre le métro pour aller dans le 8e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement que la plupart d'entre eux ne connaissaient pas, où ils étaient éventuellement passé sur les Champs-Élysées, mais ça se résumait à peu près à ça. Et vous avez choisi donc une situation d'enquête qui n'est pas très fréquente dans les sciences sociales. D'ailleurs, vous relevez que dans la plupart des manuels, on envisage toujours l'enquêteur dans une position de surplomb par rapport à l'enquêté. Or, c'est pas forcément toujours le cas, loin de là, surtout quand il s'agit d'apprentis sociologues qui combinent en fait les obstacles, les difficultés, leur âge, leur absence d'expérience, etc. Et puis là, la position sociale qui fait d'eux finalement des enquêteurs très très particuliers. Évidemment, c'est au cœur du travail concret qu'ils vont être amenés à produire dans cet arrondissement parisien, pas tout à fait choisi par hasard, contrairement à ce que vous avez raconté au maire de l'arrondissement, dans le voir au départ, Nicolas Joudin.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y avait une insatisfaction de ma part au cours de mes propres études d'être confronté à des problèmes que je trouvais pas forcément exposés dans la littérature existante, dans la littérature méthodologique sur comment on fait des entretiens, etc. Donc moi, au départ, j'avais fait une recherche sur le travail dans le bâtiment, en me faisant embaucher notamment sur des chantiers, mais aussi en cherchant à rencontrer des patrons, des DRH, des patrons d'agences d'intérim. Par la suite, j'ai fait une enquête collective avec 4 autres personnes sur les grèves de travailleurs sans papier, où là, on a cherché à rencontrer des hauts responsables, par exemple, du ministère de l'Immigration. Donc dans toutes ces situations, on n'était pas forcément on n'était pas forcément dans des positions dominantes face aux personnes qu'on était en train d'interviewer, de chercher à rencontrer. Et on ne trouvait pas forcément de quoi nous outiller, de quoi nous armer. Et alors que j'étais un petit peu au bord de passer de l'autre côté, d'avoir largement passé la trentaine, d'être statutaire, de gagner plus d'argent qu'auparavant, donc d'être peut-être davantage, plus souvent dans des situations de d'aisance matérielle par rapport aux personnes que j'interviewais, je me suis rappelé quand même de ces difficultés au moment où il faut les enseigner aux étudiants. Et donc l'idée de ce livre, c'est effectivement d'utiliser, de faire un petit récit d'aventure, des mésaventures des étudiants, mais de l'utiliser pour fabriquer une espèce de manuel méthodologique qui soit pas un manuel méthodologique abstrait, qui parle vraiment de ce qui s'est passé, pour raconter aussi comment on peut affronter sans peur, je dirais pas jusque-là, mais en tout cas en diminuant la peur, en ayant davantage idée de ce à quoi on va s'affronter. Donc, comment s'affronter à ces situations où on n'est pas, on part pas dominant.
Alors, imaginons un groupe de quoi ? Ils étaient combien sur le terrain ?
Donc, une quarantaine chaque année.
Une quarantaine d'étudiants, donc de Saint-Denis, la plupart d'entre eux habitants d'ailleurs plutôt dans la banlieue nord de Paris, plutôt des filles.
Plutôt des filles.
Plutôt, comment on peut les caractériser, de milieux modestes,
populaire, hein,
très populaires, et puis dont beaucoup, et c'est important aussi, sont noirs. Ça, c'est la question de la couleur de la peau va être quelque chose de très important pour eux, parce que ça va être l'occasion d'un apprentissage des modes de codage. Ils vont finalement se rendre compte que eux aussi sont prisonniers de tout le lexique d'euphémisation que l'on utilise les uns les autres dans nos vies quotidiennes pour qualifier des situations dont on se rend bien compte qu'elles sont asymétriques sans trop savoir leur mettre véritablement les noms qui conviennent.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, la majorité des étudiants de Paris 8, comme la majorité des habitants de Saint-Denis, même si tous les étudiants ne sont pas habitants de Saint-Denis, ne sont pas blancs. Et ça fait une différence avec le 8e arrondissement où ils mettaient les pieds. Et donc, parmi les premières descriptions, parce que dans les premiers exercices qu'on faisait, il y avait « on y va » et puis vous faites une espèce de note d'ambiance, comme on dit chez les RG, vous décrivez un peu ce qui se passe. La fois d'après, on y retourne en essayant de faire une observation un peu plus centrée, un peu plus focalisée, un peu plus concentrée.
Dans des squares, par exemple.
Voilà, dans des squares, on reste une heure au même endroit. Dans des squares ou dans des endroits plus exotiques et difficiles d'accès, comme des palaces.
Mais ou des magasins de luxe.
Ou des magasins de luxe, tout à fait. Et puis la troisième fois, on y va pour compter quelque chose ou faire une cartographie. Et effectivement, dans ces cas-là, les étudiants, des fois, n'arrivaient pas à faire autrement que de constater qu'il y avait des différences de couleur de peau entre Saint-Denis et le 8e arrondissement, qu'il y avait des différences de couleur de peau au sein même du 8e arrondissement qui s'articulaient bien souvent à des différences de fonction. Pour le dire vite, par exemple, dans le parc Monceau, les quelques personnes pas blanches que les étudiants voyaient étaient en train de travailler. La différence des personnes blanches qui, pour la plupart, étaient utilisaient le parc Monceau pour le loisir.
Ou pour prendre un autre exemple, les policiers étaient blancs, mais les vigiles étaient noirs.
Tout à fait. Voilà, c'est dans les choses qui ont été notées. Mais là, donc, on parle de blancs et de noirs, ou de blancs et de pas blancs. Au début, les étudiants, comme beaucoup de gens, hein, comme beaucoup de journalistes ou sociologues professionnels, disaient, par exemple, d'origine étrangère, où on voyait beaucoup de diversité culturelle dans le 8e arrondissement, après avoir passé une heure, ce qui est un peu étrange. Je leur disais, mais qu'est-ce que vous appelez origine étrangère ? Est-ce que vous connaissez la nationalité des gens que vous avez croisés ? Ou quand vous parlez de diversité culturelle, est-ce que vous avez entendu quelle langue ils parlaient, quelles coutumes ils avaient, etc. Ou bien quand vous dites qu'il y avait des Français, il y a beaucoup de Français de souche, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous appelez une souche exactement ? Et ça va jusqu'à quelle profondeur, les racines ? Bref, il y avait tout un vocabulaire en poulet qui d'ailleurs n'était pas forcément le vocabulaire qu'ils utilisaient entre eux, mais face
à... C'est celui qu'on entend plutôt en général à la radio, dans la bouche des responsables politiques. Ou des journalistes, et ça témoigne d'une forme de difficulté à dire les choses.
Et en même temps, ça témoigne surtout d'une préférence pour un vocabulaire qui est en apparence euphémisé et qui est en réalité le plus raciste. Puisque si on est en train de dire que les gens ne sont pas blancs, c'est une chose. Alors évidemment, c'est raciste puisque les races n'existent pas et que si on fait ça, on se réfère à des référents raciaux. Mais dans la mesure où le racisme existe, il produit des races et on ne peut pas ignorer que 5 siècles d'esclavagisme et de colonisation ont fabriqué des blancs et des pas blancs. En France comme dans d'autres pays. En revanche, dire origine étrangère pour des gens qui sont nés là, dont les parents sont nés là assez souvent, et en tout cas, tout état de cause, quand on les voit, on ne sait pas s'ils sont nés là,
oui,
si leurs parents sont nés là.
Parce que ça leur apprend très concrètement à recueillir des informations, des indices, à les recouper. Et donc, alors quand ils se mettent ces étudiants à compter, ils se rendent compte d'ailleurs de la difficulté du codage, parce que s'il n'y avait que noir et blanc, ce serait simple, mais en fait, ils partent dans des nuances et dans des subtilités très grandes qui leur fait déconstruire toutes ces catégories et qui, de façon très concrète, leur apprennent la manière dont ces catégories sont forcément, par définition, socialement construites.
Tout à fait, que ça reste de toute façon une convention et que la validité des données ne vient pas du fait qu'on a forgé les bonnes catégories, mais qu'on a forgé des catégories dont on a explicité la construction. et dont on peut la justifier, mais qu'on peut aussi revoir à l'occasion. Donc effectivement, il y a des étudiants qui, au bout d'un moment, admettant qu'on pouvait parler de la couleur de peau, comme était la bévue de dire qu'ils ont croisé des personnes de couleur, donc évidemment la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est quelle couleur. Donc on utilise des références raciaux, là où peut-être on bat en brèche le racisme, c'est que dans l'analyse, on nomme tous les êtres, il y a de l'asymétrie. Si on parle d'arabe et de noir, par exemple, on va parler de blanc, ce qui est beaucoup moins courant dans le langage ordinaire. D'ordinaire, le racisme stigmatise des gens comme différents d'eux, mais sans jamais dire différents de quoi. En l'occurrence, c'est différent des blancs. Dans un comptage un peu systématique, on les nomme, ces blancs. Ils existent, ils prennent un peu plus d'épaisseur. Et après, effectivement, certains se sont lancés dans une espèce de fabrication d'un grand nuancier de couleurs de peau, et puis ils sont complètement perdus, avant d'admettre qu'il n'y a pas de frontière objective entre des catégories de couleurs de peau ou entre des catégories de texture de cheveux, etc. Simplement, il y a les catégories racistes qui nous ont été léguées par 5 siècles de racisme et qu'on peut réutiliser ponctuellement parce qu'on ne peut pas faire autrement dans l'enquête, parce que ça peut être intéressant de décrire qu'il y a les Arabes et les Noirs sont tous au travail au parc Monceau pendant que les Blancs sont plutôt dans une situation de loisir, ou pour prendre un autre exemple, pour dire que les premiers sont davantage contrôlés par la police que les seconds.
Alors on est rentré par cet exemple-là, on aurait pu en prendre un autre, par exemple la symétrie entre les genres, c'est-à-dire que souvent donc ce sont des étudiantes qui se retrouvent face à des hommes beaucoup plus âgés, avec des formes de remarques sexistes assez dont elles font l'expérience et qui ne sont probablement pas les mêmes que celles qu'elles peuvent rencontrer dans les milieux sociaux dont elles sont plus familières, en fait, ces étudiantes. Ça, c'est un autre aspect de l'enquête.
Oui, et puis ce qui se double avec le fait que venant de Seine-Saint-Denis, non seulement elles peuvent prendre des remarques sexistes, mais elles peuvent se prendre des remarques présumant qu'elles font l'objet d'un sexisme particulier là d'où elles viennent. Je pense par exemple à l'exemple d'une étudiante voilée qui a été interviewée, un monsieur qui habite donc dans le 8e arrondissement. Elle était voilée et noire. Et donc le monsieur, systématiquement, dès lors qu'il parlait d'excision, parce que du coup il parlait beaucoup d'excision probablement parce qu'elle était là, se tournait la tête vers elle, elles étaient deux étudiantes, mais tournait la tête vers elle pour dire « vous devez savoir de quoi je parle ». Bon, apparemment elle ne savait pas. Mais... Et puis après, à la fin de l'entretien, elle s'est mise en tête de lui expliquer pourquoi c'était mal de porter le voile, sans lui laisser la parole, sans chercher à savoir pourquoi, enfin la manière dont elle se représentait le fait de porter le voile. Et tout en étant extrêmement peu disert sur, en revanche, en présumant qu'il y a un racisme très important là où elle habite, là d'où elle vient, en étant extrêmement peu disert sur le racisme qui règne au sein même du 8e arrondissement, tout près de chez lui. Il s'enorgueillissait de fréquenter des membres du cercle de l'Union Interalliée, donc qui est un cercle qui regroupe des hauts fonctionnaires, des patrons d'entreprise, enfin qui, espèce de Rotary Club, mais très très au-dessus, quoi. Il n'existe qu'un seul cercle de l'Union Interalliée au niveau national. Et ben, ce cercle, à l'encontre de ce qui se peut se voir dans la majorité des organisations politiques, syndicales, associatives, admet les femmes, ce qui fait une différence avec d'autres cercles UP de la capitale, mais ne leur donne pas le droit de vote. Et cela, il a fallu aller au cercle pour que ça nous soit expliqué. Des gens qui le fréquentent, qui en sont proches, etc., ne le voient pas comme une marque de sexisme particulièrement rétrograde au sein du 8e. On présume toujours que le sexisme rétrograde, c'est en Seine-Saint-Denis.
Alors, des femmes voilées, il y en a de plusieurs catégories, si j'ose dire, dans le 8e, et le voile ne fait pas le moine, en quelque sorte, puisque quand on est dans une rue comme l'avenue Montaigne, où il y a des grandes boutiques de luxe, il arrive assez fréquemment que des femmes voilées, clientes de ces magasins, y entrent. Mais ça ne passe pas tout à fait la même chose que quand c'est des étudiantes en sociologie de Paris 8 qui entrent dans ces magasins pour observer ce qui s'y passe, Nicolas Joulin.
Oui, tout à fait. Mais effectivement, là, j'ai donné l'exemple qui s'est un peu mal passé, où le voile est devenu classiquement un objet qui a cristallisé l'interaction. En même temps, pas mal d'étudiantes voilées s'imaginaient être mal reçues dans le quartier, parce que l'imaginer un peu, voilà, c'est le cœur de Paris, donc c'est là où il y a l'Élysée, donc au fond c'est le cœur de cette culture républicaine hégémonique qui a constitué leur voile en problème, et on a fait un prétexte plutôt de l'islamophobie. Et en fait, elles étaient étonnées d'avoir été plutôt bien reçues, voire d'avoir eu des compliments sur leur voile, parce qu'effectivement, avenue Montaigne ou rue du Faubourg Saint-Honoré, donc ces rues où il y a des boutiques de luxe, où on peut acheter des sacs à quelques milliers d'euros ou des robes à 40 000, eh bien, le voile est porté principalement par des clientes saoudiennes, qataries, qui du coup sont bien vues, parce que ce sont des bonnes clientes. Et donc, elles ont découvert, ces étudiantes, elles ne s'y attendaient pas du tout, et ça a été une surprise aussi pour moi, que ça se révèle comme ça, même si c'est une règle assez générale, que les signes changent de signification en fonction du contexte. Et en l'occurrence, que le voile n'avait pas du tout ni la même fonction, ni le même sens que dans le 93.
Alors, il y a des situations d'enquête qui sont particulièrement cocasses dans ce voyage de classe. Je pense notamment, ça m'a fait beaucoup sourire, à ces étudiants qui, finalement, dans leur... enquête d'observation de cet arrondissement entre en concurrence avec la police et qui se retrouve à regarder les caméras de surveillance ou les entrées d'ambassades, de bâtiments diplomatiques et qui se trouve devoir répondre à des questions de policiers ou devoir quitter le trottoir qui est pourtant un lieu public parce qu'on se demande bien ce que des jeunes comme ça avec un carnet à la main sont en train de faire.
Oui, j'ai choisi cette anecdote pour illustrer un vieux principe méthodologique qu'on trouve dans tous les manuels, c'est le fait que n'importe qui cherche à faire une observation est forcément, d'une manière ou d'une autre, observé par les gens qui cherchent à observer. Et qu'il est amené éventuellement à perturber même l'ordre qu'il est en train d'observer. Là, c'était effectivement particulièrement criant pour ces trois étudiantes qui s'intéressaient à l'ambassade d'Algérie un 17 octobre. Donc effectivement, c'était elles cristallisaient les regards. Et donc, elles essayaient d'observer la police pour voir comment elle organisait son dispositif sécuritaire. Mais du coup, elles alertaient la police qui est chargée de surveiller aussi exactement tout ce qui se passe avec d'autres objectifs, mais qui fait un travail similaire en quelque sorte, avec davantage de moyens techniques, notamment de talkie-walkie, de caméras, etc.
D'autres formes d'objectivation.
D'autres formes d'objectivation, tout à fait. Et donc, elles ont polarisé l'attention des policiers, si bien que leurs notes d'observation se résument à décrire la manière dont les policiers les observent. Mais ça n'est pas inintéressant et c'est toujours un résultat.
Alors, on a parlé beaucoup d'observation. En fait, vous avez initié ces étudiants à d'autres techniques d'enquête sociologique. Donc, ça a commencé par ce travail un peu large, puis un peu plus focalisé d'observation. Puis ensuite, vous en êtes venu aussi à tenter de produire des données autrement, en passant des questionnaires, forme classique, et puis enfin, en terminant par des entretiens. Ces situations d'enquête, elles sont diverses, que vous relatez dans le livre que vous avez construit, Nicolas Joulin, effectivement, à la fois comme le récit de cette expérience et en même temps comme un manuel qui peut servir à d'autres types d'expériences ailleurs que dans le 8e arrondissement.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de notations méthodologiques, mais qui s'appuient sur les écrits et les réflexions des étudiants. Par exemple, une chose qu'il a été sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'était comment départager entre le sentiment qu'on a de ne pas être à sa place, d'être en décalage, d'avoir tous les regards sur soi quand on est dans ce quartier ou dans certaines institutions de ce quartier, et puis donc départager ce sentiment-là du traitement et éventuellement des différences de traitement qui sont faites à ces étudiants au moment où ils se rendent dans le quartier. Donc là, une observation qui est tout à fait parlante, c'est trois étudiantes qui, à l'encontre d'autres qui se sont fait jeter, ont réussi à pénétrer dans le Plaza Athénée, donc à Palace de l'avenue Montaigne. Ils prennent un café à 8 euros le café et peuvent décrire en chronométrant tout simplement la différence de traitement dont elles font l'objet, le fait qu'elles font l'objet donc d'un traitement différent et inégal. On vient demander leur commande au bout de 10 minutes, alors que pour les autres, c'est 2 minutes. Après, on vient les servir à nouveau au bout de 10 minutes, alors que pour les autres, c'est 2 minutes. Quand les lumières s'éteignent parce qu'il y a un incident technique, on avise les autres clients, mais pas elles. Elles, on les a mises tout au fond, dans une alcôve, duquel il est difficile pour elles d'observer, mais aussi de laquelle elles sont difficiles à voir. Donc voilà, elles peuvent objectiver en chronométrant, en prenant en note de manière très minutieuse la différence de traitement dont elles font l'objet. Donc là, c'était quelque chose sur laquelle on est beaucoup revenu pour essayer d'y revenir aussi théoriquement à travers le concept de violence symbolique, donc le concept bourdieusien, à l'égard duquel moi j'ai quelques réserves, c'est justement qu'il mélange le traitement dont on peut faire l'objet et le sentiment que ça crée ou pas chez les gens. Moi, je propose de dissocier les deux et de regarder concrètement les deux. D'un côté, est-ce que les gens ont vraiment le sentiment d'être inférieurs, se voient effectivement à travers les yeux des dominants? Et de l'autre, comment les dominants traitent les dominés? Est-ce qu'il y a des humiliations, des rappels à l'ordre social et ce genre de choses?
Alors, il y a une dimension politique, vous l'avez dit, assez forte dans cette pratique pédagogique. Vous avez choisi de mettre en exergue de votre conclusion une très belle citation d'Everett Hughes, qui est un des grands sociologues de l'école de Chicago. Je veux la lire. Malinowski alla aux îles Trobriand et étudia des populations qu'il n'aurait probablement pas aimé inviter à dîner. Radcliffe Brown étudia les habitants des îles Andaman qui mangeaient du cochon cuit à la broche. Cela s'appelle l'anthropologie, l'étude de l'homme. Lorsque nous nous sommes mis enfin à étudier les populations qui se trouvaient ici dans nos propres villes, nous avons appelé ça la sociologie, l'étude de nos concitoyens. Dans les deux cas, notre but n'était pas d'étudier les populations qui sont les plus proches. Nous continuons à étudier les populations qui sont relativement défavorisées. En pratique, nous gardons l'idée qu'il y a ceux qui ont un mandat pour faire des études et ceux dont le destin est d'être étudiés afin d'être préservés comme les aborigènes ou afin d'être éclairés et réhabilités. Mais que nous nous nommions anthropologues ou sociologues, nous nous acheminons vers l'égalité avec ceux qui sont les objets ou les sujets de nos études. Nous pourront un jour n'étudier que nos égouts, c'est-à-dire des gens qui pourraient très bien nous étudier. Là se trouve, je pense, résumé une forme d'idéal politique des sciences sociales, Nicolas Jouvin.
Oui, tout à fait. J'aurais pas fait ce livre si ça s'était résumé à une compilation d'anecdotes, même si elles sont instructives d'un point de vue méthodologique, elles permettent de présenter d'une autre manière des éléments de méthodologie. C'est aussi une prise de position politique dans l'espace très inégalitaire de l'enseignement supérieur. Et en fait, l'idée m'est venue dans une discussion avec l'éditeur, donc La Découverte, suite à une tribune que j'avais publiée et qui recommandait de supprimer Sciences Po, l'Institut d'études politiques de Paris. Supprimer Sciences Po, ça voulait dire supprimer le privilège légal dérogatoire dont il bénéficie. Il n'a pas le même statut que les universités. Supprimer le fait qu'il est surdoté budgétairement et qu'on dépense bien davantage pour l'État dépense, et donc le contribuable dépense bien davantage pour un étudiant de Sciences Po que pour un étudiant de Paris 8, et supprimer le concours qui en plus lui permet de se dispenser d'à peu près toute réflexion pédagogique puisqu'il ne sélectionne que les plus conformes aux exigences scolaires. Donc c'était, et aujourd'hui évidemment on en est toujours loin, hein. L'État dépense 60 000 euros pour un étudiant de l'école normale supérieure, 15 000 pour Sciences Po et 6 000 pour Paris 8.
Mais alors très très brièvement, parce qu'il nous reste peu de temps, ces étudiants que vous avez eus qui sont pour la plupart arrivés en sociologie un peu par hasard, qu'est-ce qu'ils en ont pensé de la sociologie en la découvrant de cette manière-là?
Je pense qu'ils ont compris ce que peut être la sociologie, c'est-à-dire qu'on mélange en permanence des éléments de réflexion, des concepts, mais sans fétichiser les concepts. Les concepts, ce sont des outils pour décrire des situations. Ensuite, ils ont découvert, pas forcément, mais en tout cas tâté du doigt d'un peu plus près, l'existence des classes sociales.
Merci beaucoup Nicolas Jouvin. Je le redis, ce livre doit être enseigné, non seulement à l'université, mais surtout, enfin, il doit être lu aussi en sciences économiques et sociales. Ça me paraît essentiel. Voyage de classe, des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers. Il paraît aux éditions La Découverte. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Geneviève Méric, à la technique Jean-Baptiste Fauré, à la réalisation Franck Lilin.